France Culture, les matins d'été, Guillaume Erner.
Bonjour, bonjour Luc Rouban, vous êtes politiste, chercheur au CEVIPOF. Et avant de parler de la France, de cette rentrée politique qui s'annonce chargée, j'aurais aimé avoir votre regard sur ce qui est en train de se dérouler en Italie, cette crise politique avec ce coup de poker de Matteo Salvini.
Bien, j'ai l'impression qu'en Italie, on a une situation un petit peu similaire à celle de la France dans une certaine mesure. C'est-à-dire que, dans le fond, Salvini est arrivé au pouvoir avec la Ligue, mais avec une coalition, avec le mouvement 5 étoiles. Mouvement 5 étoiles qui ressemble à bien des égards au mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire un mouvement populiste, un peu diversifié, mal structuré, sans véritable leader. Di Maio n'a pas réussi à s'imposer. Et finalement, dans cette affaire, eh bien, c'est le parti peut-être le plus structuré, le plus radical, ayant un leader fort, hein, Matteo Salvini, qui l'emporte, qui finit par écarter son ancien partenaire, qui était en quelque sorte, je dirais, l'amorce ou le détonateur de cette évolution souverainiste. Alors, on dit facilement populiste. Moi, je parlerais plutôt de néo-populisme, parce qu'on n'est pas vraiment...
Quelle différence ?
Ah, la différence, elle est importante parce qu'on est historiquement le populisme, c'est quand même a quand même deux différences avec ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire que globalement, il s'agissait plutôt. Alors, l'histoire remonte très loin. Il faut remonter à Gracchus, à 133 avant Jésus-Christ, mais on passe aussi plus récemment au péronisme ou à d'autres mouvements populistes. Si vous voulez, historiquement, le populisme, c'est quand même un mouvement populaire, mais vraiment de classe laborieuse, voire de miséreux, avec une dimension souvent rurale, de redistribution des terres, et la recherche, je dirais, d'une... Alors ça, et ça, c'est la différence fondamentale avec ce qui se passe en France, en Italie, où on a plutôt des petites classes moyennes en déclin. Et on a bien vu dans le mouvement des Gilets jaunes que, dans le fond, les plus pauvres, les personnes qui habitent les banlieues, je dirais, le prolétariat actuel, ne se sont pas vraiment mobilisés, ils ne se sont pas agrégés aux Gilets jaunes. Donc on n'est pas dans la même situation sociologique. Et puis politiquement, on n'est pas non plus dans le populisme classique qui consiste à dire, bon voilà, il y aura un parti unique qui va exprimer les intérêts de la nation, les intérêts du peuple, avec un leader maximo ou un dictateur. On garde quand même en Italie, je dirais, le pluralisme, le parlementarisme, on n'interdit pas les syndicats, enfin j'espère qu'on ne va pas en arriver là, mais on est quand même toujours dans un système où les libertés publiques sont maintenues. Donc, et ça c'est aussi vrai pour les projets populistes, par exemple du Rassemblement National en France. Donc c'est pour ça que le terme populiste est un peu délicat à manier, je trouve, et un petit peu faux.
Dans les commentaires que la presse italienne fait sur Matteo Salvini, ils étaient rappelés ces commentaires par Jacqueline Fardel dans sa revue de presse internationale, il est souvent question de beaucoup de paroles et de très peu d'actes. Est-ce que c'est justifié ? Est-ce que c'est quelque chose de caractéristique de ces hommes politiques chez Donald Trump aussi ? Il y a beaucoup de paroles et puis finalement les actes sont en retrait.
Oui, parce que finalement, et ça on l'observe aussi en France, et on l'observe aussi du côté des Gilets jaunes, on l'observe aussi du côté du grand débat national, vous avez en fait l'opposition entre deux visions du pouvoir. Et le populisme ou le néo-populisme est porteur d'une vision de simplicité, d'action directe, d'action simple, dans le court terme. Tout est simple, c'est vrai chez Trump, c'est vrai chez Salvini. Et très rapidement, il se heurte à la complexité du monde. Si vous voulez, on voit bien l'opposition entre deux anthropologies du pouvoir. D'un côté, c'est l'anthropologie d'un pouvoir complexe, du long terme, avec l'Europe, avec des institutions, avec des règles de droit, avec des négociations complexes, avec des jeux multilatéraux. Et de l'autre côté, l'idée d'un retour à la simplicité, à l'action immédiate, je dirais à des un contrôle, à une possession du monde, en quelque sorte. Et cette possession du monde, c'est un petit peu la poignée de sable, c'est-à-dire ou la barbe à papa.
Mais d'un côté, ces hommes politiques, Donald Trump, Matteo Salvini, on l'a rappelé, sont très populaires, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron, qui a une popularité aux environs de 30%. Comment expliquez-vous cela, Luc Rouban, vous qui êtes politiste ?
Ah, écoutez, non, c'est, si vous voulez, les situations. Alors là, il faut faire attention parce que là, on rentre dans le domaine du comparatisme. Les situations nationales sont pas du tout les mêmes. Là, en Italie, on a un problème qui est aussi le problème français, mais qui est particulièrement accentué en Italie du fait du règlement de Dublin. C'est la question des migrants, et la question des frontières, de la souveraineté sur les frontières italiennes. Bon. Matteo Salvini, il est très populaire parce qu'effectivement, il joue sur le nationalisme italien, sur le fait que l'Italie a été, d'après lui, méprisée, considérée comme le parent pauvre de l'Union européenne, notamment par les Français, par les gouvernements français ou allemands. Et dans le fond, il y a une forme de revanche nationaliste et l'idée que ce règlement de Dublin fait en sorte que c'est le pays qui reçoit en premier les migrants qui doit les traiter. Et c'est pas qu'une idée, mais l'Europe a abandonné assez largement l'Italie, mais aussi en partie l'Espagne ou la Grèce, dans la gestion de ces phénomènes migratoires. Donc, si vous voulez, vous avez effectivement une popularité qui est très importante, qui est liée à ce phénomène, qui est liée au phénomène que l'Italie du Sud, le Mezzogiorno, est quand même aussi très pauvre. Donc, vous avez aussi derrière tout ça des enjeux sociaux et des enjeux économiques, un conflit avec, je dirais, plus peut-être des fantasmes que des réalités, mais avec cette arrivée de migrants, même si elle n'est pas aussi massive qu'on le croit, même si elle a diminué depuis un certain temps. En France, c'est pas la même chose, parce qu'en France, on a Emmanuel Macron qui, lui, représente l'autre type de pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir complexe, le néolibéralisme, l'Union européenne, tout ce que détestent de plus en plus les peuples européens.
Emmanuel Macron qui, lui, affiche en cette rentrée sa volonté de relancer ses réformes, Luc Rouban, sur les retraites, les impôts, la bioéthique, l'écologie. Est-ce qu'il a véritablement aujourd'hui les moyens de poursuivre, de relancer ses réformes ?
Alors, bon, ça, c'est vrai que le macronisme, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, se découvre en marchant. C'est-à-dire que, dans le fond, l'idée, c'est la réforme permanente. Et alors, effectivement, il y a un programme de réforme tout à fait important dans tous les domaines, dans le domaine sociétal, avec la PMA, dans le domaine social, économique, la grande réforme des retraites qui va se mettre en route. Donc effectivement, on a un train de réforme considérable qui suit celui de la première partie du quinquennat, en quelque sorte, qui considère en fait que le pays est à la traîne, qu'il doit s'adapter à la mondialisation. C'est en fait un programme néolibéral et ça on le sait de plus en plus. Et clairement, on voit bien dans les enquêtes d'opinion que les Français situent de plus en plus Emmanuel Macron à droite. Donc en fait, les Français ont le président de droite qu'ils voulaient élire en 2015-2016.
Mais alors, quelle droite ? Parce que je crois, Luc Rouban, que vous disiez en substance que le macronisme, c'était un jupéisme qui avait réussi ?
Oui, c'est ça. C'est une. Alors, bon, c'est un petit peu différent parce que Juppé était moins néolibéral en quelque sorte. Il était quand même, il avait des racines gaulliennes ou gaullistes qui ont été abandonnées par les Républicains. D'ailleurs, ce qui constitue une faute stratégique considérable puisque, en termes de néolibéralisme, Emmanuel Macron les a complètement doublés. Donc, on est, si vous voulez, dans une situation où Emmanuel Macron poursuit plutôt le projet néolibéral qui était évoqué ou amorcé par Nicolas Sarkozy, voire par François Fillon, au moment des élections de la campagne de 2017.
Pensez-vous qu'il le fasse par conviction ou par stratégie politique ?
Il y a les deux. Je pense qu'effectivement, l'idée qu'il faut, en quelque sorte, faire mûrir une forme de social-libéralisme. Alors, c'est, si vous voulez, la convergence de ce deuxième gauche rocardienne ouverte au marché, à l'Union européenne, et de l'autre côté, l'ouverture au marché financier, l'ouverture au capitalisme, la libération de l'économie française, entre guillemets, la fluidification des relations de travail. Donc, tout ça, on voit que ce programme est en train d'être mis en œuvre. Mais, si vous voulez, de l'autre côté, on sent bien qu'il y a quand même ce souci du social, parce que, paradoxalement, Emmanuel Macron a été élu par des électeurs socialistes.
Oui, c'est la raison pour laquelle je vous demandais si c'était de la conviction ou de la stratégie. Puisque...
Alors, de la stratégie, certainement, parce que, si vous voulez, là, il a complètement coupé l'herbe sous les pieds des Républicains. Les Républicains n'ont plus de ligne politique. Aujourd'hui, ils ne savent plus quelle est leur ligne politique. Parce que, qu'est-ce qui reste aux Républicains ? Il ne reste plus que le conservatisme sociétal, c'est-à-dire s'opposer éventuellement à la PMA, pour les plus, pour la partie catholique, et encore, on a bien vu que les catholiques se rabattaient de plus en plus aux élections européennes sur La République En Marche, pour des raisons aussi stratégiques d'ailleurs. Donc il ne reste plus grand-chose aux Républicains, parce que le projet Sarkozy, Fillon, etc., est mis en œuvre par Emmanuel Macron. Donc en fait, qu'est-ce qui reste aux Républicains ? Il ne reste plus rien.
Bon, mais tout à l'heure, on évoquait un certain nombre de métaphores lié à l'astrophysique, le Big Bang rocardien, autrement dit la recomposition de la vie politique, c'était ce qu'il souhaitait en 1993 et il le voyait plutôt à gauche. Vous allez publier un ouvrage qui s'intitule « La matière noire de la démocratie » aux presses de Sciences Po. C'est encore une métaphore liée à l'espace. Luc Rouban, on voit malgré tout qu'il y a une situation assez étrange, comme si finalement la politique devenait aussi mystérieuse que l'astrophysique, on a l'impression effectivement que la droite est plutôt désemparée. On ne peut pas dire que la gauche soit dans un état largement plus, comment dirais-je, appréciable, confortable. En tout cas, comment expliquez-vous cela ?
Ah ben oui, on peut l'expliquer, je dirais. Alors pas simplement, mais on peut l'expliquer quand même par le fait qu'il y a quand même certains fondamentaux qui n'ont pas changé et qui vont justement rendre ce train de réforme néolibérale relativement difficile à mettre en œuvre. Du moins, vont susciter certainement des conflits. Alors on ne sait pas si ces conflits seront convergents ou pas, mais on a un certain nombre de fondamentaux. Le premier élément, c'est que les Français sont très peu libéraux en termes économiques. Ça, c'est une des grandes structures françaises. Des représentations de la grande majorité des citoyens, des électeurs français, ne sont pas libéraux sur le plan économique. Donc, en fait, le projet du macronisme, il est déjà en décalage sur ce terrain-là. C'est une erreur d'analyse considérable de penser que l'élection d'Emmanuel Macron a signifié une grande convergence de la gauche et de la droite, une espèce de libéralisme un peu centriste, et puis voilà. Bon, non, on n'est pas du tout dans cette situation. Donc sur le fond, en termes de valeurs, on n'a pas vu évoluer les valeurs dans le sens du libéralisme économique. En revanche, on voit évoluer sur le terrain sociétal, alors de manière tout à fait assez complexe, de manière différentielle, les valeurs en matière d'immigration, et là on voit bien émerger un autoritarisme très puissant, qu'on remarque d'ailleurs très clairement dans les contributions au grand débat national. On n'est pas du tout en grand débat national quand vous l'étudiez, les contributions au site internet, n'est-ce pas, du gouvernement. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des demandes pour une république autoritaire, fermant les frontières, contrôlant l'immigration, refusant l'immigration économique, acceptant l'immigration politique, et encore à condition qu'elle soit durement contrôlée, un petit peu à la Salvini. Donc, si vous voulez, voilà. En revanche, effectivement, du côté, je dirais, de tout ce qui concerne la vie sexuelle, la liberté culturelle, sociétale, au sens plus général, là, vous avez une tolérance plus grande. Donc, vous avez une évolution qui fait que, pour répondre à votre question, après ce long détour, vous avez un décalage permanent en France entre l'offre et la demande de politique.
Mais alors, justement, ouais. Ce que je cherche à savoir, Luc Rouban, est-ce que ce décalage, il est tactique? Parce que on sait aujourd'hui que dans la plupart des démocraties, il suffit de 30-35% d'opinion favorable, mais d'une opinion solidement favorable. Donald Trump, c'est précisément sa stratégie pour être réélu. Est-ce donc la carte que joue Emmanuel Macron? Est-ce qu'il commet une erreur? Parce que vous dites que le libéralisme, c'est une attitude en décalage avec l'opinion publique française, mais s'agit-il de séduire l'opinion publique ou une partie d'électeurs qui vont assurer votre élection, peut-être votre réélection?
Oui, alors là, écoutez, le problème, c'est que effectivement, Emmanuel Macron a été élu en 2017 dans des conditions très particulières, essentiellement, il faut le dire, par défaut, c'est-à-dire qu'une grande partie de l'électorat socialiste s'est reporté sur lui parce qu'il voulait surtout éviter un débat, un dialogue entre, au second tour, entre Marine Le Pen et François Fillon. Donc, si vous voulez, vous avez eu un choix stratégique ou tactique de l'électorat socialiste, et les socialistes qui ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour 2017 étaient de vrais socialistes, pas des socialistes qui auraient viré leur cutie vers le social-libéralisme ou le libéralisme économique, pas du tout. Ce sont pas des strauss-kahniens, ce sont des vrais socialistes. Bon, ça, on a pu l'étudier clairement. Le problème, si vous voulez, c'est que entre 2017 et aujourd'hui, la situation a évidemment évolué. Donc, on est dans une situation tactique, effectivement, où il s'agit d'absorber au maximum les Républicains, éventuellement ce qui reste du socialisme, bon, le socialisme libéral n'existe plus, mais on garde quand même une place à la démocratie, à la social-démocratie, associée plus ou moins à l'écologie politique, pour autant que celle-ci puisse se structurer ou s'associer à la social-démocratie. Donc, en fait, vous avez effectivement une vision tactique, parce qu'il faut bien gagner les élections, avec l'année prochaine les élections municipales, là il y a un autre enjeu tactique, c'est la création d'un ancrage territorial pour La République En Marche, ancrage qui n'existe pas. Et ça, c'est encore la seule force des Républicains aujourd'hui. Ce sont leurs maires, leurs élus locaux, leur ancrage territorial. Et ça, effectivement, La République En Marche n'en a pas. D'ailleurs, on le voit très clairement dans les attaques contre les députés de La République En Marche. Il y a effectivement la question du CETA, mais il y a aussi la question du fait que la plupart de ces députés n'ont pas de racines territoriales réelles.
La question du CETA, c'est-à-dire, Luc Rouban?
La question des traités de libre-échange.
Leur contestation, donc, notamment parmi les agriculteurs.
Oui. Surtout par les éleveurs, oui, qui craignent que les importations de produits canadiens finissent par faire arriver des produits de qualité relativement médiocre ou mal contrôlés. Toute la question étant celle du contrôle, parce qu'on les a rassurés en disant « mais il y aura des normes, ce sont les normes européennes ». mais en fait, on a un grand, si vous voulez, le scepticisme est très fort vis-à-vis des capacités de contrôle. Donc, il y a une réaction extrêmement violente qui peut se comprendre, parce que ça aussi, c'est un petit peu un des traits caractéristiques du macronisme, c'est qu'il est très utilitariste, il est globalement, économiquement, c'est bien. Alors, bien sûr, il y a des perdants. Ben oui, mais les perdants, ils s'expriment quand même de temps en temps.
Autrement dit, le tableau que vous dressez du macronisme, il est libéral en matière économique, il est autoritaire sur les questions régaliennes, notamment les questions liées à l'immigration, et il est...
Non, pas vraiment. Pas vraiment. Là, justement, c'est là le problème. C'est que normalement, si vous voulez, le
social... Vous dites qu'il y a une demande autoritaire chez les
Français.
Il y a une
demande, mais elle n'est pas, si vous voulez, elle n'est pas satisfaite. Hein, parce que, effectivement, le macronisme, pour l'instant, en matière d'immigration, reste assez discret, même très, très discret, même pratiquement muet. Enfin, bon, on a eu quelques éléments, effectivement, de mise à distance vis-à-vis de la politique allemande en matière d'accueil des migrants. Mais sur le fond.
L'accueil se fait au compte-gouttes.
Mais si vous voulez, c'est quand même une position. À minima, bon, effectivement, pour ne pas trop braquer l'électorat de droite, mais on n'est pas dans une position, on n'a pas une politique très claire en matière migratoire, en matière d'immigration. Cette politique, elle est, et d'ailleurs, beaucoup d'électeurs se demandent si un jour on en aura une.
Et le troisième point est la question, cette fois-ci, du libéralisme en matière de mœurs. Je pense à la prochaine loi de bioéthique. À quoi sert-elle, cette loi de bioéthique? Sert-elle à essayer d'attirer un certain nombre de faveurs de la frange électorale la plus libérale sur le plan sociétal? Bref, quel est le but poursuivi par cette loi et peut-être par cette manœuvre, si vous la qualifiez comme telle, Luc Auvent?
Oui, enfin, je ne sais pas si c'est une manœuvre, mais c'est vrai que c'est l'autre volet du social-libéralisme, c'est de dire, on est peut-être libéraux sur le plan économique, mais nous sommes aussi libéraux sur le plan sociétal, donc nous ouvrons, dans une certaine mesure, un certain nombre de pratiques en matière de reproduction, en matière aussi, éventuellement, alors on va sur les terrains peut-être aussi plus tard de l'euthanasie ou de la fin de vie contrôlée. Donc effectivement, l'idée d'un contrôle individuel sur sa vie biologique répond de cette attente un peu de liberté. Mais,
la droite Trocadéro, reprendre l'expression.
Bien sûr que non. Là, on est tout à fait aux antipodes de la droite catholique conservatrice traditionnelle. Hein. Mais cela étant, il faut bien comprendre qu'en termes d'impact... Alors, il faut différencier les choses, parce que, globalement, en termes purement électoraux, ces questions concernent une toute petite minorité de personnes. C'est ça, le problème. Hein. Alors que les questions...
C'est ça, le problème, ou c'est une solution?
Je ne sais pas si c'est une solution, parce que finalement, la démocratie, elle est toujours quantitative. Hein. Au bout du compte, ce sont les chiffres qui parlent, hein. C'est pas la qualité. C'est tout le problème.
Lorsqu'on vous accuse d'être dans une ligne politique conservatrice, est-ce que, par moment, sur les questions de mœurs, il n'est pas possible, justement, de montrer qu'on est plus progressiste qu'on le dit, précisément parce que, finalement, cela concerne peu de personnes?
Non, mais je pense que, si vous voulez... Ce progressisme, c'est aussi l'idée, et ça c'est un petit peu aussi la grande limite du macronisme, c'est on est renvoyé à l'idée d'une autonomie des individus. C'est-à-dire, et c'est là aussi où on a en quelque sorte un décalage, parce que cette autonomie n'est pas du tout perçue suivant les positions sociales. Elle parle surtout aux classes supérieures, en fait. Dans les classes populaires, les classes moyennes, vous n'avez pas ce sentiment d'autonomie, d'ouverture, de liberté, y compris dans votre vie individuelle, y compris dans votre vie biologique. Vous êtes beaucoup plus hétéronome. Et c'est ce que disaient les Gilets jaunes, d'ailleurs. Ils disaient, mais nous dépendons des institutions. Hein, regardez la situation des urgences à l'hôpital. Parce qu'elle est là, la situation. Pour les classes populaires, c'est la situation des urgences à l'hôpital. C'est pas de savoir si vous allez pouvoir faire une PMA, etc. Bon, ça peut concerner un certain nombre de personnes, mais c'est très minoritaire. Donc, le problème, si vous voulez, en matière de santé, les questions ne se posent pas du tout de la même façon, suivant de votre position sociale, ça c'est évident. Hein, mais, effectivement, vous avez... un marquage ou un marqueur politique à travers ces questions de bioéthique.
Mais alors, selon vous, est-il possible de gouverner aujourd'hui un pays comme la France en se coupant d'une grande partie des classes populaires, peut-être aussi des classes moyennes inférieures? Est-ce que ça, c'est une équation possible, Luc Rouban?
Écoutez, c'est une équation difficile que l'on vit actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez vraiment une coupure avec les classes populaires et les petites classes moyennes. Et c'est ça le malaise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez effectivement un mécanisme de pouvoir qui tient la route parce que nous avons les institutions de la Ve République, parce que nous avons un président qui a beaucoup de pouvoir, à la différence d'ailleurs du président du Conseil italien. On n'est pas du tout dans la même situation. On n'est pas dans le parlementarisme italien avec des coalitions, donc avec un parti majoritaire au pouvoir. Mais vous avez un vrai décalage, puisque les grandes attentes des Français ne sont pas, si vous voulez, en quelque sorte, le compromis ou l'association des demandes qu'expriment les Français ne sont pas représentées au pouvoir, à savoir la demande de services publics, une demande, et ça je ne le dis pas de manière normative mais de manière descriptive, une demande de régulation voire de restriction ferme de l'immigration, et une demande aussi, je dirais, d'égalité, de méritocratie réelle, au-delà de toutes les hypocrisies, les mécanismes institutionnels français qui font que finalement, au bout du compte, on sait bien qu'il y a une forme de reproduction des élites et des grandes écoles, par exemple.
Et donc, cette formule-là, elle n'y est pas et elle se fait donc en décalage avec l'opinion. C'est ce que vous indiquez notamment dans La matière noire de la démocratie. Et c'est le livre que vous allez publier dans quelques jours aux presses de Sciences Po. On va se retrouver, Luc Rouban, dans une dizaine de minutes pour continuer à commenter cette rentrée politique. Vous nous direz un peu quel sentiment vous donne la perspective des prochaines municipales. Une autre vision de la politique avec vous, Luc Rouban. On vous retrouve pour évoquer donc cette situation politique avec le sommet du G7 à Biarritz et les différents commentaires qui sont faits sur les violences possibles, la violence qui est à nouveau au cœur de l'actualité en France. Je parle de la violence politique. Vous revenez assez longuement sur ce que vous considérez comme étant un retour dans votre ouvrage « La matière noire de la démocratie » aux presses de Sciences Po.
Oui, effectivement, parce que le mouvement des Gilets jaunes a fait réémerger une violence politique de nature insurrectionnelle qu'on ne connaissait plus depuis très longtemps, qui est quand même inscrite dans les gènes de la vie politique française depuis effectivement plusieurs siècles, mais qui avait disparu depuis, disons, grosso modo, 1962. Donc, et là, il faut aussi faire quelques distinctions. On a souvent mis l'accent, par exemple, sur les Black Blocs ou sur un certain nombre de radicaux qui pratiquent une forme de violence politique systématique, notamment vis-à-vis de la police. Mais je crois qu'il faut surtout faire attention à l'émergence de cette violence spontanée de primo-manifestants, qui était quand même assez sidérante et qui était considérable, avec des dégâts considérables, qui exprimait une forme d'exaspération et de dialogue démocratique de sourds. Et en quelque sorte, ça, c'est vraiment l'un des symptômes que je décris dans l'ouvrage, c'est-à-dire que, dans le fond, la démocratie représentative, c'est un moyen de gérer les conflits. Et à partir du moment où vous voyez apparaître cette violence de nature insurrectionnelle, cette radicalité, qui allait très loin, puisqu'on avait des simulacres d'exécution d'Emmanuel Macron, sans parler des insultes ou des attaques...
Là, on est dans la violence symbolique.
Oui, mais symbolique parce que, traduisant le sentiment que, dans le fond, le mécanisme de représentation ne fonctionne plus, ne transmet plus les demandes, que vous avez une forme de pouvoir autiste qui n'est plus à l'écoute, qui vit dans son monde fermé. Alors c'est là où on retrouve une forme de populisme, si vous voulez, mais c'est pas vraiment du populisme. C'est vraiment une forme de nouvelle opposition de classe avec des personnes venant de petites classes moyennes ou de classes tout à fait populaires, mais qui sentent leur déclin, qui sentent que l'avenir sera sans doute plus sombre, et en plus pour leurs enfants. Donc vous avez cette inquiétude de fond et l'idée que tout ce qu'ils vivent en pratique, c'est-à-dire toute cette société en pratique au pluriel qu'on vit dans les services publics, dans les hôpitaux, dans la disparition des services publics, dans les territoires, dans la difficulté de vivre dans cette société dite moderne, eh bien toutes ces pratiques ne font pas sens politique et n'arrivent pas à s'exprimer au niveau politique. Et donc on a ce mécanisme d'exaspération et de violence.
Mais pourquoi en France, Luc Rouban, s'agit-il d'une tradition? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, une dimension anthropologique française qu'un certain nombre de conflits deviennent des conflits réels dans la rue, parce que ça se voit ailleurs, alors souvent dans des pays peu démocratiques, je pense par exemple à ce qui est en train de se dérouler à Hong Kong. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire? Vladimir Poutine a renvoyé Emmanuel Macron au gilet jaune, tandis qu'Emmanuel Macron, lui, évoquait la répression des manifestations à Moscou. Bref, qu'en dire?
Oui, alors là, il faut faire attention, une fois de plus, aux comparaisons, parce que la situation de Hong Kong est très différente. Moi, je l'interpréterais inversement comme étant plutôt une revendication pour un mode de vie à l'occidental contre le Parti communiste chinois, avec toutes les libertés publiques que cela implique. Le mouvement des Gilets jaunes en France, c'est l'inverse. C'est plutôt l'idée que vous avez toute une partie de la population qui est victime d'une forme de, je dirais, d'ostracisme par le capitalisme financier. Les Gilets jaunes, le mouvement en tous les cas, il soutient aux Gilets jaunes, sont fondamentalement anticapitalistes. Pas forcément antilibéraux, ils sont pas contre la petite entreprise ou le commerce, mais ils sont fondamentalement anticapitalistes.
Alors qu'est-ce que c'est pour anticapitaliste ?
Anticapitaliste, c'est-à-dire contre cette idée que vous avez des forces financières, vous avez en quelque sorte des autorités, une forme de pouvoir anonyme qui dirige les sociétés modernes, qui mettent en forme la réalité sociale de tous les jours et sur laquelle on n'a plus de prise.
Si vous voulez, donc leur ennemi, c'est la finance.
Oui, c'est la finance, et cette forme d'anonymisation du pouvoir, cette espèce de dépossession, et d'ailleurs c'est ce que traduit aussi d'une certaine manière le Rassemblement National, c'est l'idée que on peut, de manière volontariste, reprendre possession du pouvoir, reprendre possession de la réalité sociale.
Mais c'est un anticapitalisme qui n'est absolument pas révolutionnaire, qui ne souhaite pas, enfin sauf si vous êtes en désaccord avec ce que je vais dire, qui ne souhaite pas rompre avec la propriété privée. Non, bref, ça n'a rien d'un anticapitalisme qu'on pourrait qualifier de marxiste, par exemple.
Ah, pas du tout. Non, c'est pas un anticapitalisme de gauche. C'est bien anticapitaliste, c'est relativement populiste ou néo-populiste, mais c'est pas de gauche. Et d'où le désarroi, je pense, de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, qui tenait enfin sa grande révolte sociale et sa grande convergence des luttes, et qui voit lui échapper complètement ce mouvement en termes électoraux.
Mais là aussi, comment expliquer qu'il y ait une telle contestation du pouvoir et de ce que vous appelez les partis pris libéraux du pouvoir, sans pour autant que la gauche radicale ou même la gauche moins radical en profite, Luc Rouban?
Mais parce que tout simplement, vous avez en quelque sorte une gauche, alors qui d'une part est éclatée, vous avez la France insoumise qui propose en quelque sorte une forme de formule politique qui ne répond pas à toutes ces questions-là. Alors, elle propose effectivement la démocratie directe, la 6e République, c'était notamment l'une des grandes demandes de des Gilets jaunes ou de leur soutien, mais en même temps, vous n'avez pas je dirais, de solutions peut-être très concrètes à la solution immédiate des problèmes. C'est-à-dire que, dans le fond, c'est le rejet complet du système de la démocratie participative, des partis politiques, qui eux-mêmes sont tombés très bas en termes de niveau de confiance, des syndicats. Les syndicats ont été complètement exclus du mouvement des Gilets jaunes. Le 1er mai, vous avez la CGT qui est complètement cernée par les Gilets jaunes, par cette violence. Donc, si vous voulez, c'est l'intermédiation démocratique qui est complètement parti en décomposition.
Mais justement, cette intermédiation qui est en crise, on a évoqué tout à l'heure Matteo Salvini, et dans la revue de presse internationale, il était question de la maîtrise que Matteo Salvini a des réseaux sociaux et notamment de Facebook. Les Gilets jaunes, eux aussi, sont des enfants de Facebook. On voit qu'il y a aujourd'hui une prégnance très forte. Est-ce que la science politique n'est pas amenée justement à se rénover ou à voir les choses autrement maintenant que ces réseaux sociaux permettent une politique directe, une politique d'un nouveau genre?
Alors, ce que les réseaux sociaux... Alors là, le débat est effectivement lancé, mais c'est un débat complexe, parce que ce que les réseaux sociaux amènent, ce sont deux choses. D'une part, c'est le renforcement du communautarisme. C'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, on ne parle qu'à ceux qui partagent vos idées. On ne partage pas les idées des autres. Donc on ne communique pas, c'est pas transversal. Donc ça renforce cette idée que, dans le fond, vous avez des systèmes communautaires, très larges, dans le système politique français, qui ne s'écoutent plus. Donc vous avez plutôt une destruction de l'espace public plutôt qu'une construction. Par ailleurs, le deuxième point, c'est quand on regarde l'usage des réseaux sociaux à travers la crise des Gilets jaunes, c'est vrai qu'ils ont servi pour la mobilisation, pour le déclenchement des manifestations, mais que cet usage n'est pas forcément lié au soutien que les électeurs apportent aux gilets jaunes. C'est-à-dire que dans le fond, vous avez effectivement aussi des réseaux sociaux qui ont pu exprimer l'opposition aux gilets jaunes. Donc vous n'avez pas forcément, en quelque sorte, un outil. Les gilets jaunes, c'est pas l'expression d'un outil technologique, si vous voulez. C'est pas la conséquence mécanique d'une forme d'évolution technologique qui ferait que l'Assemblée nationale serait dépassée ou que la représentation serait dépassée. C'est un outil d'accompagnement, de mobilisation et de déclenchement, mais c'est pas l'outil créateur.
Non, on a même l'impression d'un autre monde ou d'une matière noire, pour reprendre le terme que vous employez dans le titre de votre ouvrage « La matière noire de la démocratie » aux presses de Sciences Po, Luc Rouban, puisque ces gilets jaunes, ils existent ô combien dans la rue. En revanche, leur représentation politique lors des européennes, elle a été difficile à situer, sauf si vous l'avez situé quelque part.
Non, mais effectivement, non, mais là, je pense qu'il y a un vrai problème. Si vous voulez, c'est pour ça que je pourrais, d'une certaine manière, rapprocher un peu, d'une certaine manière, les gilets jaunes du mouvement 5 étoiles en Italie. C'est parce que, finalement, et ça, c'est ce que disait Roberto Michels, le sociologue italien du début du XXe siècle, c'est la loi des reins des oligarchies. C'est-à-dire qu'en matière politique, il faut qu'il y ait une oligarchie quelque part.
C'est-à-dire justement,
les gilets jaunes ont refusé tout porte-parole, tout leadership, et je crois qu'ils en ont été victimes.
Mais Roberto Michels utilisait cette loi des reins de l'oligarchie pour expliquer pourquoi il n'y avait pas de socialisme aux États-Unis. Aujourd'hui, si on reprend ces thèses-là, on voit qu'il y a une mobilisation radicale, celle des gilets jaunes, qu'elle ne se traduit pas à gauche. Alors, qu'elle se traduit peut-être dans la droite radicale, encore que le Rassemblement national n'est pas...
Non. Alors c'est là où les choses, c'est là où il faut différencier.
Parce que vous dites vous-même dans votre livre que les gilets jaunes, selon vous, se partagent en trois tiers, un tiers France Insoumise, un tiers Rassemblement National et un tiers d'abstentionnistes.
Oui, ça, ce sont les manifestants, les personnes qu'on va trouver dans les manifestations ou sur les ronds-points. Ça, c'est une chose. Mais en revanche, quand on regarde les soutiens, et ce sont les soutiens qui comptent en termes politiques, en termes électoraux, les soutiens sont massivement du côté du Rassemblement National ou éventuellement de l'abstention. Et c'est là le grand problème. C'est-à-dire que quand on observe, et c'est là aussi où on a eu des difficultés en termes sociologiques pour étudier ce mouvement, c'est que, a priori, on l'a étudié avec les lunettes de la sociologie politique classique en disant c'est un mouvement social, c'était pas un mouvement social comme un autre. Et l'examen des manifestants ou des ronds-points ne donne pas forcément, ne constitue pas forcément le bon indicateur de sa portée politique en termes de soutien. Et en termes de soutien, vous avez effectivement un ensemble de valeurs qui sont celles en fait du Rassemblement. Plutôt, très très majoritairement, celles du Rassemblement National.
Mais alors, justement, c'est ça qui est très étrange. On voit cette crise avec, vous dites, des soutiens du côté du Rassemblement National. Avec un Rassemblement National, les choses peuvent évoluer. Mais aujourd'hui, le Rassemblement National semble être dans une situation de minoritaire. C'est une forte minorité, mais c'est une minorité qui ne parvient pas à dépasser le seuil fatidique des 50%. Ce qui veut dire qu'on aurait peut-être des antagonismes dans la scène politique qui vont devenir de plus en plus forts et qui ne pourraient pas être résolus par des alliances ou par une recomposition de la vie politique française.
C'est-à-dire que, oui, effectivement, c'est tout l'enjeu en ce moment du discours qui consiste à dire il n'y a plus de clivage gauche-droite, il n'y a plus qu'un clivage entre les progressistes, disons le macronisme d'un côté, et le Rassemblement National de l'autre. Alors effectivement, ça coince complètement le Rassemblement National dans une situation d'isolement, parce que dans le fond, effectivement, vous avez raison, la question est de savoir comment créer des alliances pour obtenir effectivement ce poids électoral décisif. Alors la question, effectivement, c'est celle de se pose au sein des droites, hein, avec la décomposition des Républicains.
Au sein des droites, mais La République En Marche, vous la situez où, Luc Rouban ?
Au sein des droites, en dehors de La République En Marche. Mais c'est vrai que maintenant, on est dans un débat.
Non, parce que
on est dans un débat de droite au pluriel. C'est-à-dire que c'est ça le problème. Les gauches ont complètement disparu de la circulation. Hein. Peut-être à part les écologistes. Et encore, maintenant, ils disent qu'ils sont ni de gauche ni de droite non plus.
Bon, voilà. Non, parce que je reprenais votre cadre d'analyse. Du coup, s'il s'agissait de conclure sur votre regard en matière de rentrée politique, peut-on aujourd'hui gouverner durablement un pays lorsqu'on est politiquement minoritaire, puisque c'est le cas d'Emmanuel Macron, c'est pas uniquement le cas d'Emmanuel Macron, on pourrait le dire également d'autres pouvoirs. Est-ce que pour vous, c'est une situation durable, possible, au vu du poids respectif des familles politiques?
C'est vrai que c'est une situation artificielle qui est très difficile de maintenir, qui est très fragile, très vulnérable. On le voit bien, il y a eu l'affaire Benalla, il y a eu l'affaire de Rugy, donc vous avez aussi toutes ces affaires qui, en tant que telle, signifie sans doute une vraie question posée à la démocratie française en termes de moralité, de déontologie, d'éthique, mais qui pose aussi la question de la fragilité du pouvoir macronien. D'ailleurs, tous les commentateurs se disent, à chaque fois qu'il y a une affaire, attention, que va-t-il se passer? On sent bien qu'il y a une fragilité, qu'on est dans la tactique, qu'on est dans une espèce de mouvement d'équilibre instable. Effectivement, ça sera le grand enjeu de 2022.
C'est pour ça que vous êtes inquiet, Luc Rouban?
Oui, oui. Parce que rien ne dit que Emmanuel Macron sera réélu en 2022.
Ce n'est pas ça qui vous rend particulièrement inquiet, parce que je ne crois pas que vous soyez macroniste.
Je ne suis pas macroniste, je ne suis d'aucun parti, mais je pense qu'on pourrait...
Vos livres sont plutôt critiques.
Oui, certes. Mais justement, parce que ça crée une situation qui, à mon avis, devient très dangereuse pour la Ve République.
Luc Rouban, la matière noire de la démocratie aux presses de Sciences Po. Merci de nous avoir commenté cette rentrée politique. Dans quelques instants, on va parler d'une autre reprise, la reprise des travaux dans la cathédrale Notre-Dame en compagnie de Didier Durand. Il est coordinateur des travaux à la cathédrale.